À vrai dire, en écoutant John Shedd, je me suis dit que j'aurais dû relire Ovid avant de préparer cet exposé, parce qu'au fond, ce qu'il a décrit comme les métamorphoses, il y a beaucoup de thèmes qu'on retrouve dans le champ de ce qu'on pourrait appeler, ça aurait pu être le titre aussi, les métamorphoses du droit. Des mots comme chaos ou hybridité font écho dans le débat actuel sur les métamorphoses du droit. Et d'ailleurs, dans quelques mois, nous aurons une rencontre sur les métamorphoses de l'ordre juridique. Donc, je relirai Ovid d'ici là. Mais je suis partie sur une autre piste, enfin, pas si éloignée que ça en réalité, mais en apparence, avec ce titre un peu énigmatique, « Formes, normes et dogmes ». Je vais essayer de lui donner un contenu. Au départ, je dirais d'emblée que la forme est quelque chose qui fascine les juristes. Elle est à la fois condition d'existence des normes juridiques et manifestation de puissance. On pense aux sources formelles du droit. On pense à la forme des énoncés, aux formes de la procédure, et on s'aperçoit que la forme a des atouts auxquels la force seule ne peut pas prétendre. La force normative, c'est quelque chose d'important, mais la forme a l'atout du visible, la forme se donne à voir. La forme a l'atout d'une certaine stabilité, parce que la forme fixe et sécurise, au moins pour un temps. Il y a une récente étude qui a été publiée il y a quelques mois sous la direction d'une collègue, Catherine Thibierge, sur la force normative, qui montre très bien la différence. C'est que la force est invisible, elle est sous-jacente, elle est insaisissable, elle est toujours en mouvement, alors que la forme reflète la force, la structure, elle emploie des termes plus poétiques, elle la sculpte et la densifie, elle cristallise la force à un moment donné et fixe pour un temps le jeu des forces. Et elle en conclut que forme et force dansent ensemble dans le champ juridique. Mais il faut regarder plus loin encore. Avec son regard perçant, Pierre Bourdieu avait très bien repéré dans un article intitulé « La force de la forme », il avait repéré les dangers. Il avait repéré les dangers du formalisme. Je le cite, « L'impression de nécessité logique suggérée par la forme tend à contaminer le contenu. » Et il ajoutait « Le formalisme rationnel » que longtemps a opposé au formalisme magique des rituels, participe en réalité à l'efficacité symbolique de la force juridique. Et ce formalisme rationnel du droit, il accompagne tout le travail collectif de sublimation qui est destiné à attester que la décision exprime non pas la volonté ou la vision du monde de tel ou tel juge, mais la volonté du législateur, la voluntas legis. Alors, il nous incite à la prudence. Si la forme est sœur jumelle de la liberté, c'était la formule célèbre de Hering, je dirais que le formalisme peut devenir frère jumeau de l'arbitraire quand il conduit vers un certain type de dogmatisme, un dogmatisme qui fixe et qui fige la forme juridique. Mais, et c'est là qu'on retrouve l'idée de métamorphose, le droit n'est pas immobile. Bien au contraire, en ces temps dits de mondialisation, on voit à quel point il change. La norme juridique n'est plus le monopole de l'État-nation, sans pour autant qu'elle relève d'un État mondial, dont personne d'ailleurs ne voudrait, en tout cas sur le modèle de l'État-nation. Alors le résultat, c'est que la nature des formes se diversifie, les normes deviennent publiques et privées, interne et international, le nombre de normes internationales croît sans cesse. Et quand je dis international, ça peut être au niveau régional. Nous sommes très sensibles ici à l'influence, à l'importance, à l'inflation des normes européennes. D'autres régions ont d'autres types de normes régionales. Et puis, il y a les normes internationales à vocation mondiale, qui sont elles-mêmes innombrables et éclatées dans des domaines très différents, qui vont du commerce à l'environnement, en passant bien sûr par les droits de l'homme, par les droits sociaux et bien d'autres encore. En même temps, la forme de la norme varie. On est habitué à ce que les Anglais appellent « hard law », le droit dur, c'est-à-dire en réalité un droit qui a plusieurs propriétés, un droit qui est précis, un droit qui est obligatoire et un droit qui est sanctionné. Or, on voit de plus en plus se développer ce qu'ils appellent « soft law », et là encore, j'indique les propriétés, qui sont alternatives, qui ne sont pas toujours cumulatives. Le soft law, je l'appellerais un droit souple, mais ça veut dire imprécis, parfois facultatif, parfois incitatif et non sanctionné, ou pour le dire de façon plus amusante, le flou, le mou et le doux. Or, ces variations, cette diversité et ces variations déforment, on pourrait dire peut-être déformalisent, la normativité juridique. Pour beaucoup de juristes, il s'agit d'un phénomène pathologique. Et là, je cite un article qui est un classique du professeur Prosper Veil, « Vers une normativité relative en droit international ». C'est un article très critique où il parle de phénomène pathologique et où il dit « Le droit serait devenu malade de ses normes ». Alors, il est vrai que le jeu des normes juridiques ne se laisse plus aussi facilement circonscrire par ses formes. Et il est vrai que les certitudes non démontrées de ces dogmes sont plus facilement remises en cause. Mais le mal, s'il y a mal, le mal est-il incurable? Alors, bien sûr, et là, on retrouve le chaos. L'assouplissement des formes peut conduire au chaos. L'assouplissement des formes, l'affaiblissement, peut conduire à l'arbitraire, à l'instabilité. Mais c'est parfois un atout. C'est parfois un atout. Et au fond, mon hypothèse de travail, j'essaye d'étayer par des exemples, c'est que le renouvellement des formes pourrait, à certaines conditions, et tout le problème est d'arriver à préciser ces conditions, protéger ce droit mondial en formation sous nos yeux, d'un dogmatisme qui conduirait tout droit à son rejet. On commence déjà à reprocher à certains dogmatismes aux droits de l'homme, par exemple. Il faut trouver des réponses à cela. Mon hypothèse, c'est que la déformation pourrait annoncer une transformation. Autrement dit, entre formes, normes et dogmes, je suggère une autre danse que celle de Catherine Thibierge, une valse à trois temps. Les normes se forment et s'imposent à travers le dogme. Elles se déforment par l'irruption notamment de ce droit souple. Mais du même coup, elles se transforment. Et là, peut-être prépare-t-elle l'avènement d'un autre formalisme que j'aimerais imaginer sans dogmatisme. Alors, formation, déformation, transformation. La formation des normes juridiques, elle est intense depuis longtemps, mais le XXe siècle est particulièrement sensible à la notion de normes, qui est intensément utilisée par les juristes, au moins dans la tradition romano-germanique. On parle continuellement d'ensemble de normes, on parle de système de normes, on parle de hiérarchie des normes. Alors évidemment, on peut se demander comment définir la norme. Peut-être faut-il remonter à l'étymologie latine, norma, l'équerre, qui donne la ligne et qui donne l'angle droit. La norme est un instrument qui fournit un modèle pour agir et ou un modèle pour juger. Selon la formule d'un autre collègue, la norme a vocation de permettre le tracé, autrement dit de guider l'action, et la mesure en ce qu'elle permet de juger l'action accomplie. Donc modèle, mais un modèle qui peut présenter plusieurs propriétés, car le mot norme, si on regarde ses dérivés, se divise en deux branches. Il y a la normativité qui renvoie à un modèle idéal, ce qui doit être ou ce qui devrait être, l'ordre normatif qui prescrit, qui interdit, qui permet. Et puis la normalité qui est née de la moyenne ou de la majorité des comportements et qui renvoie à ce qui est, à un modèle existant. Disons que dans la conception traditionnelle identifiée à l'État, le droit est avant tout normatif. Or, la normativité est liée aux formes. En témoigne à l'évidence l'expression de source formelle du droit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les sources formelles du droit ? Bien, depuis que le droit s'est identifié à l'État, c'est une expression qui vise essentiellement la loi et puis les autres sources officielles écrites. C'est une expression qui englobe aussi la jurisprudence, mais à condition qu'il s'agisse de décisions venant des tribunaux étatiques et à condition que soient respectées les formes de la procédure, on retrouve encore les formes, et tout cet ensemble marque la naissance d'un formalisme juridique conçu comme un positivisme. Si on prend la conception la plus radicale énoncée par le juriste Kelsen, on aboutit à un normativisme qui se referme sur lui-même. Pour être valable, une norme doit être obligatoire et seule du droit peut être source de droit. Alors, chacun connaît la vision de Kelsen. Le système juridique est conçu comme un ensemble de normes hiérarchisées de forme pyramidale. Car chaque norme tire sa force obligatoire de sa conformité à une norme supérieure et on remonte ainsi jusqu'à la Constitution et par-delà jusqu'à une norme fondamentale un peu mystérieuse à laquelle tout est suspendu. C'est un système clos. C'est un système clos parce qu'il y a identité entre l'ordre juridique et l'État. Le droit est d'essence étatique et l'État est d'essence juridique. Ce qui fait que l'État ne peut pas enfreindre le droit parce que le droit est identique à sa volonté. C'est un positivisme pur et dur qui laisse sans réponse la question de la véritable source du droit, la mystérieuse norme fondamentale. C'est une vision qui risque de réduire le droit à l'état de pur instrument au service de la force. Alors c'est ainsi qu'on en vient au dogme. Parce que précisément pour ces défenseurs, il serait le seul moyen de ne pas réduire le droit à l'état de pur instrument au service de la force. Selon le grand défenseur de la dogmatique juridique qui est Pierre Legendre, le droit est un texte où s'écrivent nos croyances communes. Nous avons besoin de ces croyances communes parce que ce sont celles qui permettent de vivre ensemble. Ce sont celles qui permettent d'accorder un même sens à la vie, donc qui rendent la société possible. Et il considère que le droit serait le dernier lieu où la dogmatique est explicitement à l'œuvre. Au fond, il a un argument qui peut sembler convaincant à première vue, c'est que le droit n'étant pas l'expression d'une vérité révélée par Dieu ou découverte par la science, Il ne peut s'imposer à tous qu'à travers le dogme. Et à son tour, notre collègue Alain Supiot écrit que la dogmatique juridique est la manière occidentale de lier les hommes en posant un sens qui s'impose à tous. Il cite d'ailleurs au passage Tocqueville, « On ne saurait faire qu'il n'y ait pas de croyance dogmatique, c'est-à-dire d'opinion que les hommes reçoivent de confiance et sans les discuter. » Et Auguste Comte, « Le dogmatisme est l'état normal de l'intelligence humaine, car le scepticisme n'est qu'un état de crise. » Néanmoins, il repère le danger. Et c'est ce danger, finalement, qui nous intéresse particulièrement. Il repère le danger en disant les ressources dogmatiques du droit ne peuvent fonder, elles sont nécessaires, mais elles ne peuvent fonder que des équilibres fragiles, toujours menacés par la tentation du fondamentalisme. Le fondamentalisme, c'est-à-dire un retour à ce qu'on pense être la vérité des textes fondateurs, en se référant à un sens littéral que l'on pense évident du texte. C'est donc le rejet de l'interprétation évolutive, c'est le rejet de la prise en compte de l'évolution des connaissances et de la transformation des pratiques, qui est quand même un peu un problème si on pense à l'importance des découvertes scientifiques et des innovations technologiques. Le fondamentalisme, en droit comme ailleurs, c'est le refus de la pluralité des interprétations. Et on voit ici ou là les reproches de fondamentalisme juridique à propos du droit des droits de l'homme ou à propos de la justice pénale internationale. Mais le danger ne se limite pas au dogmatisme. Le normativisme aussi peut conduire au fondamentalisme à partir du moment où il fixe l'interprétation. Ce n'est pas un hasard si Kelsen rejette la notion pourtant très utilisée par les juristes de source du droit. Il dit que c'est une notion inutilisable en raison de la multiplicité des significations de ce terme source du droit. Or, il me semble, tout au moins au stade actuel de l'histoire du droit, que c'est justement cette multiplicité des sources et des formes qu'elle détermine qui pourrait nous protéger du fondamentalisme juridique. Pourquoi ? Parce qu'elle nous invite à confronter la pluralité des cultures, la pluralité des convictions. Le problème, c'est qu'elle est d'abord vécue comme une déformation, comme quelque chose de négatif. Donc, de la déformation à la déformation. Mais quand il évoquait le droit malade de ses normes, Prosper Veil décrivait deux symptômes. C'est intéressant de repartir de sa description. D'une part, le premier symptôme de cette maladie, c'est que la normativité est maintenant graduée. Elle est graduée par l'irruption de la soft law. Ce droit flou, mou et doux, qui multiplie des instruments comme les codes de conduite, les principes directeurs, les avis, les déclarations, les recommandations, les standards, qui relève peut-être plus de la normalisation que de la normativité. Mais l'autre symptôme, selon Prosper Veil, c'est que la normativité serait diluée par la multiplication des acteurs. Notamment en droit international, les États ne sont plus les seuls acteurs. La société civile entre dans le droit international à travers les victimes de violations des droits de l'homme qui peuvent agir devant les juridictions internationales, à travers le droit du commerce, le droit des affaires. Et il devient de plus en plus malaisé, écrivait-il, de déterminer non seulement de quoi est faite une norme, mais aussi qui elle oblige et envers qui. Quand il écrivait cela, il pensait surtout au droit international. Mais les symptômes sont observables aussi dans le droit de l'entreprise. Là, le formalisme recule, je dirais, pour les entreprises les plus puissantes, c'est-à-dire les entreprises transnationales, celles dont le poids financier est supérieur à beaucoup d'États. Face à leur stratégie globale et à leur organisation extrêmement mobile, les droits nationaux sont très peu efficaces. parce que le pays où est implantée l'entreprise n'a généralement pas les moyens de la poursuivre en cas d'illégalité, et puis il cherche à maintenir les investissements, et le pays d'origine n'en a pas la volonté et parfois n'en a pas la compétence. En droit pénal, on applique le principe de territorialité, c'est là où le crime est commis que l'on doit juger en principe l'affaire. Alors, dans quelques cas exceptionnels, on a vu apparaître la forme de la compétence universelle, notamment au profit des tribunaux fédéraux américains, quand il y a violation de droits de l'homme, que cette violation soit commise par quiconque à l'étranger contre une victime étrangère. C'est un vieux texte qui était complètement resté en sommeil depuis des années, Alien Tort Claims Act. C'est un texte de 1789 qui était conçu à une époque où les États-Unis voulaient marquer leur adhésion au droit international, leur bonne volonté à l'égard du droit international. Et on a réactivé ce texte dans les années 80, d'abord contre des dirigeants politiques étrangers auteurs de violations graves, et puis contre les violations commises par des entreprises transnationales. À l'heure actuelle, l'applicabilité de cette compétence universelle des tribunaux américains est incertaine, parce qu'elle a été admise par la Cour suprême, mais ensuite les cours d'appel sont entrées en conflit, les unes sont pour, les autres l'écartent, en disant le texte ne s'applique pas à des personnes morales, donc l'entreprise ne peut plus être poursuivie. Et il faut attendre une nouvelle décision de la Cour suprême pour savoir si cette compétence universelle va perdurer. De toute façon, je ne la regretterai pas si elle disparaît, parce que je ne pense pas que ce soit une bonne solution qu'un pays, un seul pays, devienne en quelque sorte le gendarme du monde. Mais alors, quoi mettre à la place ? À la place, on utilise une expression commode mais très ambiguë, qui est l'expression de responsabilité sociale de l'entreprise, RSE. Mais quand on regarde ce que cela veut dire, responsabilité, ça paraît très fort, mais quand on regarde la définition qui est donnée notamment par l'Europe, l'Union européenne, il s'agit d'une intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et à leurs relations avec les parties prenantes. C'est ambigu parce que le mot volontaire réduit cette responsabilité, entre guillemets, à une normativité molle, des normes qui ne sont ni obligatoires, ni sanctionnées. Alors, on a une inflation de ces normes molles, une véritable avalanche. J'ai énuméré tout à l'heure code de conduite, standards, recommandations, avis. Elles sont tantôt privées, tantôt publiques. Et je dirais de cela, de ces normes molles, souples, qu'elles sont utiles comme modèle de normalité peut-être. Parfois, elles permettent d'amorcer un durcissement. Par exemple, une entreprise qui ne respecte pas ses engagements inscrits dans un code de conduite peut se voir parfois poursuivie pour publicité mensongère. Mais elles ne sont certainement pas suffisantes pour déterminer les règles d'un marché global. Un marché qui est déjà global. Quant aux États, alors là, il y a des années qu'ils résistent à l'adoption de règles dures qui permettraient de codifier leurs responsabilités en cas de faits internationalement illicites. On n'a pas réussi, jusqu'à présent, à aller au-delà d'une simple recommandation qui date de 2001 de l'Assemblée générale de l'ONU. Or, cette résistance des États, elle devient un problème à mesure que les valeurs s'universalisent, à mesure que les biens communs se globalisent. On parle maintenant de biens publics mondiaux. Nous avions eu d'ailleurs un séminaire, un colloque sur ce sujet au Collège de France il y a quelques années. En réalité, on voit tout de même se durcir les normes applicables aux États dans les secteurs dits auxiliaires, mais pas si auxiliaires que ça. Il s'agit du droit du commerce, avec le rôle de l'Organisation mondiale. Et il s'agit des droits de l'homme. Alors, en matière de droits de l'homme, c'est très intéressant de voir le durcissement progressif des normes. Les formes deviennent progressivement plus dures. C'est un phénomène lent, parce que si vous partez de la Déclaration universelle, c'est un texte qui est imprécis, qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas sanctionné. On avait à peine à l'époque, en 1948, évoqué la possibilité d'une sanction, d'une cour, mais on n'a pas été plus loin. Avec les pactes de l'ONU en 1966, les normes deviennent plus précises et elles deviennent obligatoires quand un pays ratifie le pacte. Mais il n'y a pas de juridiction qui puisse censurer les violations de ces pactes de l'ONU. Il y a simplement la possibilité d'un rapport constatant la violation. En revanche, avec les dispositifs régionaux comme la Convention européenne des droits de l'homme, la Convention interaméricaine ou maintenant la Charte africaine, on a un durcissement plus affirmé parce qu'il y a un mécanisme de sanction. Les États qui ont violé les droits de l'homme doivent indemniser et se mettre en conformité. Cela étant, c'est un processus complexe, car s'il devient obligatoire à certaines conditions et parfois sanctionnable, le droit international des droits de l'homme reste souvent flou. Par exemple, il y a dans tous les textes une disposition qui permet à un État de restreindre les droits de l'homme dans le cadre qui est très vaguement défini comme les restrictions nécessaires dans une société démocratique. Ça veut dire qu'on autorise les États à invoquer la protection de l'ordre public pour légitimer des atteintes à la vie privée ou à la liberté d'expression. Or, par rapport à cela, la Cour européenne des droits de l'homme ne renonce pas à censurer les restrictions disproportionnées, mais elle admet ce qu'elle appelle une marge nationale d'appréciation. Autrement dit, elle introduit une gradation. Alors, je pose la question, s'agit-il d'une nouvelle déformation ou d'une transformation? Et si je pose la question, c'est parce qu'on a besoin d'une transformation des normes pour concevoir un ordre juridique à l'échelle mondiale. On ne peut pas transposer purement et simplement les sources formelles telles qu'elles fonctionnent au niveau national, au niveau mondial. Je dirais que ça n'est pas faisable, parce que ce ne serait pas accepté par les États. Ça n'est pas souhaitable, parce qu'il y a toujours derrière ce type d'universalisme un risque d'hégémonie, la tendance à l'extension des normes venues des pays les plus puissants. Alors, il y a bien sûr un noyau dur qui se constitue, c'est la notion techniquement des jus cogens, c'est-à-dire l'idée d'une norme impérative qui, quand elle est acceptée par tous, s'impose à tous, mais la Cour internationale de justice est très prudente et elle ne l'applique que quand elle est admise, cette notion, par les États eux-mêmes. Ou alors on l'applique dans les juridictions droits de l'homme en cas de violation de ce qu'on appelle les droits indérogeables, les atteintes à la dignité de la personne, ou ce qu'on appelle les crimes imprescriptibles, le crime contre l'humanité. Mais ce noyau dur ne vise ni tous les droits de l'homme, ni tous les domaines du droit. Alors, est-ce qu'il faut se résigner à voir la déformalisation ou la déformation s'étendre à mesure que le droit international envahit, je dirais, tous les domaines du droit? Le risque, c'est d'oublier la formule de Yering, la forme sœur jumelle de la liberté. Peut-être y a-t-il, à travers les pratiques qui se mettent en place, une autre voie, qui serait la suivante. Sans renoncer à tout formalisme, ça consisterait à transformer le formalisme en trouvant des remèdes à ces défauts qui avaient été qualifiés de pathologiques. La normativité graduée, elle est liée au flou du droit, mais elle a à la fois des défauts, bien sûr, le risque d'arbitraire, mais elle a des avantages. Elle n'empêche pas de durcir la norme. La norme peut être floue, mais en même temps obligatoire et sanctionnée. Et puis surtout, le flou, la graduation, permet d'assouplir le contenu en fonction du contexte. C'est-à-dire que la graduation permet de tenir compte de la diversité des contextes politiques, économiques, culturels qui existent d'un État à un autre. Et c'est là qu'on voit l'intérêt des techniques juridiques nouvelles imaginées par les cours internationales, comme cette technique de la marge nationale d'appréciation. imaginé par la Cour européenne des droits de l'homme. Le défaut, c'est donc l'arbitraire, le risque d'arbitraire de ces juges internationaux, c'est ça que l'on craint. Mais il y a des remèdes. Il y a des remèdes, c'est pas moins de formalisme, c'est un autre formalisme. C'est remplacer la logique binaire par des logiques plus complexes, des logiques non standards, des fuzzy logics. Alors, bien sûr, la prise de décision est plus complexe en univers flou que dans la vision binaire. Il ne suffit pas de constater qu'il y a un écart à la norme, il faut noter le dépassement d'un certain seuil de compatibilité. Et pour que ce n'y ait pas arbitraire derrière ce changement, il faut plus de transparence, il faut que le juge motive non seulement sa décision, mais les indicateurs qui déterminent le seuil de compatibilité, et il faut plus de rigueur dans la mise en œuvre. On peut faire varier le seuil, mais à condition de dire pourquoi et d'appliquer les mêmes indicateurs d'une affaire à l'autre. Si tout cela est respecté, le flou peut devenir l'instrument d'un ordre pluraliste et évolutif. Et on peut dire la même chose pour la normativité diluée. La dilution des acteurs, étatiques, non étatiques, peut contribuer, peut-être un défaut, si elle empêche de sanctionner la violation des normes, mais il y a des remèdes dans les formes de la procédure pour responsabiliser les titulaires de pouvoir. Il y a de nouvelles formes d'action pour les victimes, il y a de nouvelles formes d'identification et d'imputation pour les entreprises, il y a de nouvelles répartitions des compétences entre le juge national et le juge international. Alors, en conclusion, je dirais que ce jeu formation, déformation, transformation suggère peut-être de remplacer ou, soyons plus modérés, de compléter la métaphore de la pyramide des normes. Parfois, on utilise la métaphore des réseaux. Parfois, celle des nuages, qui est plus inattendue. Les nuages ordonnés, comme j'aime à le dire. Alors, ça nous amène à une conclusion en forme de point d'interrogation, parce qu'au mystère de la pyramide ou au mystère du dogme qui fixe la norme, se substitue ou s'ajoute celui du souffle, le souffle qui forme, qui déforme, qui transforme les nuages. Finalement, peu importe, norme fondamentale, dogme fondateur ou souffle transformateur, nous touchons là non seulement aux limites de l'exposé, mais aux limites du droit. Il est temps que je me taise. Merci.